You know, that's an attempt to put people in a square peg, right? The standard square peg all the time. I don't know that any of us actually belong in those square pegs.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 10, entrevue avec Malvina Clagg. Qui invite-t-on à la table?
Avec vos animatrices, Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes, un épisode un peu spécial aujourd'hui. On a invité Malvina Clagg à parler avec nous. Malvina, elle est une consultante, elle est aussi chercheuse à HEC. Son travail est autour de l'innovation sociale et du changement systémique. Et puis, elle travaille notamment dans le milieu de l'autisme, donc tous les problèmes sociaux qu'il y a autour de ça. Elle travaille dans des petites organisations, dans des grandes organisations. Elle fait du travail bénévole également. Donc, elle est une femme de multiples chapeaux et de multiples combats. On a travaillé ensemble déjà quand moi j'étais chez Prêt, Disponible et Capable. Elle était à la Fondation Myriam au programme « See Things My Way ». Et donc, en fait, c'était ma supérieure immédiate. Et donc, je suis super excitée et contente de vous la présenter. Par contre, Malvina parle surtout anglais. Donc, on a fait un épisode un peu spécial aujourd'hui, comme je le disais. Un épisode où on va vous parler, Mélissa et moi, de la conversation qu'on a eue avec elle. On va aussi vous présenter des segments où est-ce que Malvina nous raconte elle-même tout son parcours et ses opinions. Donc, on va essayer que ce soit fluide et quand même sympathique à la sauce neurodivertissante. Fait que Mélissa, prête? T'es-tu contente? T'es-tu de bonne humeur aujourd'hui?
Ben oui! toujours. Puis c'est ça, c'est intéressant de voir comment on était capable d'apporter différentes voix à la table du podcast. Puis là, bon, ben c'est ça, on essayait avec une personne anglophone parce que la voix de Malvina était très importante pour nous avec l'article que vous aviez fait ensemble. Fait que bon, on essaye ça, puis tu sais, n'hésitez pas à nous dire, après l'écoute là, de l'émission, que vous l'ayez écouté dans la version 100% francophone ou la version bilingue, comment vous avez trouvé ça, si ça vaut la peine peut-être de réessayer dans le futur une version avec des invités anglophone ou si on devrait rester côté francophone. Fait que c'est comme c'est vous les auditeurs, mais c'est important aussi de vous demander votre avis sur comment vous avez trouvé cette expérience-là.
Oui, parce que tu l'as mentionné, on va avoir deux versions de cet épisode-là. Un épisode bilingue où il y aura nous qui jase et qui raconte un peu la conversation, puis un bout avec des bouts où est-ce que Malvina va parler. Puis on va avoir une autre version où est-ce que ça va être juste nous qui va expliquer un peu ce que Malvina nous a raconté pour le bénéfice de nos auditeurs exclusivement francophones. Voilà.
Fait que c'était une belle entrée en matière, ce que tu nous as décrit de Malvina. Puis tu sais, pour de vrai, c'est une soie, cette femme-là, d'une intelligence et d'une bonté, d'une sensibilité incroyable. Vraiment, là, je me trouve vraiment privilégiée d'avoir eu la chance d'apprendre à la connaître. Puis je pense que toi, d'avoir eu l'occasion de travailler avec elle, ça a dû être extraordinaire là, comme expérience aussi.
Oui, bien sincèrement, c'est une des meilleures bosses que j'ai eues. À l'époque, je venais d'avoir mon diagnostic d'autisme. Mm-hmm. Ma situation dans le sein de cette entreprise-là est un peu spéciale parce que Prêt, Disponible et Capable relève d'organismes locaux. Donc, c'est mm-hmm. un programme qui n'est pas canadien, puis ensuite, c'est incarné à l'intérieur d'organismes locaux. Donc, je relevais à la fois de l'équipe de Prêt, Disponible et Capable et à la fois de Malvina qui travaillait pour l'organisme local. Donc, c'était mm-hmm. ma patronne et donc elle avait son mot à dire aussi sur les mesures adaptatives dont je bénéficiais. Puis, elle a été d'une compréhension, d'une sensibilité qui était assez incroyable. Donc, c'était vraiment, vraiment extraordinaire.
Ouais, un peu le rêve de chaque personne neurodivergente là, d'avoir quelqu'un qui puisse comprendre puis avec laquelle on peut échanger sur ses besoins sans se sentir jugé, tu sais.
Non, exactement. Puis on a des valeurs qui sont vraiment similaires, donc c'est assez le fun. Puis on a continué, vous allez le découvrir au fil de l'épisode, mais on a continué à travailler ensemble en écrivant un article. Donc c'est vraiment extraordinaire de travailler avec cette personne-là. Je suis vraiment tellement contente. Et je suis contente de vous la présenter.
It could be a long story, but I won't make it a long story. I am working as an independent consultant right now, and I'm also a researcher at HEC. And my work is really, it revolves around social innovation and systemic change with regard to some of society's most vexing or complex problems. So that's what I'm doing now. I work with small organizations, large organizations, and also do a lot of volunteer work in multiple sectors. So that's where I'm at today. Should I talk a bit about where I come from?
Well, I would definitely like to know where you come from, how you came across neurodiversity and autism, yes?
Well, maybe I can give you a little bit of real history in my history, in the sense that I'm the child of two Holocaust survivors and who lost their entire families during the Second World War. And, you know, so I grew up, especially, you know, with my father, who was really an advocate for social justice, but didn't have the energy, given the circumstances that he had to live and had to survive post-war, et cetera. He didn't have the energy to do a lot of the stuff that he wanted to do. And he did some, but I sort of feel like in the next generation now, which is me, I have a responsibility to carry that forward. And something that he always said to me is that the biggest problem we have in today's world is the dislike of the unlike. And so that stuck with me, and it sticks with me today. And we have felt it, you know, for our own reasons, you know, given our religion and our background, and obviously my parents experienced it firsthand. But I started my career actually in business. Blue chip business, you know, really large corporations, Accenture, and then Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb. And I always gravitated toward healthcare. And I had an aha moment one day when we were doing some research for a new product that was really making a difference in people's lives. And it was at that moment that I said, okay, this is what I need to do. And I just skipped over the fence to the nonprofit world. And have since been part of the founding group for four different nonprofits, with different issues in Quebec and in Canada. And I would say around 10 years ago, I was approached by somebody. His name is Salvatore Guerrera, and he has an adult daughter who is severely autistic and is deaf. And he has been very involved in philanthropy and wanting to give back. And he had decided that big things needed to change in this province. And not only for his daughter, but in general. And so he told me the story.
Yes.
And he said that he told me the story. He shared with me the data he had, the information he had. And honestly, I couldn't believe it. I could not believe it. I could not believe the actual situation that autistic people and others are facing today, and the lack of support and services. And that's where it began. So he asked me to get involved, and I did, and I have never stopped, and it extended into my writing as well, hoping that maybe if we do both, if we get involved on the service side and we also get involved on the writing side, we can share some of the learning and experiences so that others pick up elsewhere.
Donc, en fait, c'est ça, Malvina, elle ne travaille pas vraiment dans la neurodiversité, elle travaille vraiment dans le milieu de l'autisme et elle est très, très, très impliquée. Elle a même centré certains de ses projets de recherche autour de la question. Et voilà un peu son parcours. Ensuite, ce qu'on racontait, c'est que, ben, on a écrit un article, je l'ai dit, Malvina et moi, avec David Nicholas. Et l'article s'appelle Creating a Resilient Ecosystem for the Employment of Autistic Individuals from Understanding to Action. Donc, un long titre pour parler finalement de l'écosystème qui est autour des personnes autistes qui veulent travailler. Donc, que ce soit à un niveau plus macro ou micro. Elle embarque ensuite dans le fait que ça a été difficile à écrire pour plein de raisons. Mm-hmm. Parce que Malvina, en fait, c'est elle qui s'est mise au clavier et qui a écrit l'article après qu'on ait fait la recherche. Et puis, on racontait comment on en est arrivé à ça. Donc, je lui disais qu'elle m'avait approché pour co-écrire cet article-là. Et elle racontait qu'à la base, c'est qu'elle a été dans un espèce de programme à Banff, que c'était une résidence. Et puis, c'était une résidence de 4 semaines où elle apprenait, dans le fond, à travailler sur les changements systémiques. Puis, elle a décidé, dans le fond, d'aller dans ce programme-là, comme je le disais.
About, I guess it was in 2018, at the end of 2017, I found out about a program that was happening in Banff, Alberta, And it's a residency. It's a four-week residency where you learn, you work basically 7 days a week, 10 hours a day for four straight weeks. You don't go home, nothing. And you learn about systemic change. And I decided to apply to be a resident. There were 21 people that were invited to come from across the country. And I was one of them. I was really lucky. And so it was a life-changing experience. Because it taught me how, and we learned from masters in this area from around the world, it taught me how to look at these issues in a different way, through a different lens. And I was determined at that point to take that back to my work and to my writing. And this is where this paper that Solène, I guess, is referring to came up. I and a colleague, David and Solène, decided to write a paper about what the real needs are to change the world with respect to employment and autism. And that's a big statement, and it's a big undertaking.
So it's comme un espèce de bootcamp intensif de changement systémique avec des personnes qui étaient sélectionnées sur le billet, vraiment, là.
Moi, là-dedans, j'ai surtout participé. Ben, j'ai donné mon avis, bien sûr, sur ce qu'on écrivait, mais j'ai surtout fait une très longue entrevue avec Malvina où on revient sur mon parcours. Et dans le fond, mon histoire sert à illustrer la théorie qu'on amène dans cet article-là. Et puis, ben, finalement, la théorie qu'on a... c'est un long article, hein? C'est un article scientifique qui a été publié dans Families of and Society. Donc, c'est une revue américaine, donc on est tout énervé. Ben, enfin, je suis tout énervé parce que c'est une revue américaine, puis là, waouh, on est international, n'est-ce pas?
Oh, et t'es global!
Ouais, c'est ça. Mais ça a été super dur pour moi parce que c'était vraiment de me dévoiler, puis OK, tout ça va être lu par le monde entier, là, c'est intense. Mais bon.
Ouais, je sais, t'étais énervée quand ça a sorti, puis tu sais, j'étais tellement contente pour toi parce que justement, tu sais, ça donnait une voix à quelqu'un qui justement passe dans les cracks des différents systèmes qui existent, puis de la raison pour laquelle on a besoin de ces changements systémiques-là qui sont à la base de l'article. Puis, ben justement, à ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à parler un peu, grosso modo, des constats de l'article avec Malvina.
And the theory is really that even though there's we're really happy to see that there are a lot of programs now, for example, with respect to employment. There are a lot of programs and the people around the table are fantastic and they're really working hard to change the employment situation for autistic individuals because, as you may know, if we look, for example, Canada-wide, people who are diagnosed with developmental disabilities, only about 22% of them are employed. And this is obviously unacceptable, and it's mind-blowing, and it shouldn't be. And so there are, because of that, there have been some wonderful initiatives trying to help change that, and they've all contributed in some way. But the conclusion the three of us have had is that it's not enough to have a program. We really have to look at the ecosystem as a whole, which many of us surprisingly don't really understand. And what's most important in that whole ecosystem is not necessarily a single program, but the relationships or the lack of relationships among many players in that ecosystem. It's all about the connections, you know? And so, you know, there was a great example, Solène, that you gave when you needed help in more than one area. You needed help you know, for your mental health at one point, and you needed help for employment at the same time, but those services are separate and work in complete silos often. And what one really needs often is for a team that is connected and supportive. So that's one of the points that we talk about in the papers.
Ces silos-là, ben, tu sais, ce que ça veut, c'est ce qu'on essaie de défaire, grosso modo, avec le podcast, c'est d'aller chercher, bon, ben, oui, la neurodiversité at large, mais aussi, tu sais, à travers tous les différents acteurs qu'on rencontre, de voir, bon, ben, c'est où les interconnexions, puis peut-être qu'un jour, on sera capable de sortir une espèce de mapping de tous ces beaux acteurs-là, de la neurodiversité et de l'autisme qui, qui sont autour de nous, tu sais. Puis au-delà de l'écosystème de l'autisme, la raison aussi pourquoi c'est important, c'est à cause de toutes les interrelations, toutes les comorbidités, toute l'intersectionnalité qu'il y a au travers de la neurodiversité qui fait que des fois, justement, tu sais, tu peux avoir besoin d'aide dans un certain programme pour l'autisme, mais en même temps, tu sais, si tu as un TDAH ou si tu as autre chose, bien, les autres ne sont très pas capables de t'aider. Puis c'est des situations qui sont quand même assez communes, là. Donc le fait d'avoir ce filet un peu qui vient rejoindre tous les différents acteurs de la neurodiversité va permettre d'aller chercher plus de soutien adéquat pour les personnes.
So I, it's funny you say that because at the end of the paper we say this is about autism and employment, but it's not. Because to your point, well, first of all, like you say, many people have comorbidities. And secondly, a lot of the arguments apply to any population, any vulnerable population, frankly.
C'est ça, en bout de ligne, ça revient à ce qu'on essaie d'expliquer aussi avec le podcast, c'est dans le sens que puis on l'a dit, puis on le redit, puis on va le marteler, mais tu sais, chaque personne neurodivergente est différente de l'autre, tu sais, il y a autant de neurodiversité qu'il y a de personnes neurodivergentes, puis c'est de se rattacher après ça à c'est qui la personne qui est devant nous, c'est quoi ses besoins, c'est quoi sa réalité, puis là, tu sais, dans la discussion, c'est là que j'exprimais pourquoi, tu sais, moi, dans ma vision de la chose, c'est pourquoi que je trouvais que le coaching, c'était tellement important puis une ressource intéressante à rajouter, moi, à mon arc, puis pour offrir aux autres, parce que justement, tu sais, le coaching, c'est de s'assurer qu'on est là avec la personne devant nous selon ses spécificités à elle. Puis en termes de neurodiversité, bien, c'est ça, c'est les spécificités de chacun qui prime là, dans tout ça.
Oui, puis c'est là qu'on arrivait dans la conversation, au fait que souvent les services vont être offerts aux gens qui en ont besoin le plus. Mm-hmm. Mais c'est pas la majorité des gens qui en ont besoin le plus. Là. La majorité des gens vont être relativement fonctionnels à différents niveaux, mais vont réussir à relativement bien fonctionner, ont quand même besoin d'aide, mais c'est pas ceux qui vont être on va pas être non fonctionnels à cause de qu'on n'a pas cette aide-là. Donc, c'est un problème parce que souvent, les services vont être offerts, vont être spécialisés dans ceux qui ont le plus besoin d'aide, puis finalement, c'est une minorité, donc c'est un peu absurde. Un très bon exemple de ça, c'est les agences de... En fait, les services d'employabilité, où souvent, c'est un peu un cercle vicieux où est-ce qu'ils connaissent pas les gens qui sont fonctionnels et, par exemple, diplômés dans le cas de l'autisme. Ouais. Mais plus ils connaissent pas ça, ben plus ils en serviront pas, puis plus ils en servent pas, ben plus ils connaissent pas ça, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment problématique, tu sais.
C'est ça, c'est une espèce de servitude de roue qui, tu sais, qui avance pas en bout de ligne, puis qui crée des espèces de zones aveugles. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, ça fait partie un peu du fait d'avoir une représentativité puis d'une voix à la table que de comprendre que, justement, tu sais, les stéréotypes qu'on a en tête, tu sais, c'est pas représentatif de la réalité, puis de savoir justement que les personnes qui bénéficient des systèmes qui sont, par exemple, autistes, mais ceux qui sont en plus grande situation de handicap, le fait de savoir que c'est pas la majorité, ça peut être une surprise pour plusieurs, tu sais. Puis je me souviens quand on s'était rencontrés, Céline, tu sais, tu me racontais un peu ce que tu avais vécu avec les programmes d'aide, tout ça, puis c'est ça, ils semblaient un peu démunis face à toi, tu sais, de... Tu sais, t'étais fonctionnel, mais en même temps, t'avais besoin d'aide, mais eux, ils étaient habitués d'accompagner des personnes qui étaient beaucoup plus lourdement handicapées, fait que c'était difficile à ce niveau-là de te faire comprendre, puis d'avoir de l'aide qui était pas adéquate, parce que c'est sûr que, tu sais, de l'aide, c'est toujours mieux qu'à rien, mais...
Ouais, non, c'était de l'aide adéquate dont j'avais besoin, parce que souvent, j'enseignais, tu sais, ils me montraient à faire un CV, à faire des entrevues, à rechercher un emploi. Hey, comment je suis en RH, là?
Ouais, puis genre, t'as une maîtrise, puis, tu sais, c'est...
Oui, c'est ça, j'ai une maîtrise, là, je sais c'est quoi, tu sais, puis j'ai d'autres ressources autour de moi qui peuvent m'aider, puis qui sont vraiment, mais vraiment plus qualifiés que vous autres, tu sais. On s'entend que souvent, c'est des sociologues qui sont dans ces organismes-là, il y a d'autres professions, là, mais ça m'avait... un peu choquée quand j'avais vu que quelqu'un travaillait là-dedans, il était sociologue. J'étais « What? Qu'est-ce que ça vient faire là, tu sais? » Ouais. Et qu'on s'entend que c'était pas cette aide-là dont j'avais besoin. Moi, j'avais besoin d'aide pour, oui, l'entrevue, mais comment est-ce que je fais pour ne pas avoir 50 millions de stimuli puis que je sois hyper focus puis, tu sais, en tout cas, c'était vraiment problématique.
Puis tu sais, on parle puis on diverge un petit peu de ce qu'on avait dit dans l'entrevue avec Malvina, mais tu sais, ça me fait juste réaliser à quel point, tu sais, pendant qu'on dit ça, que, tu sais, quand on aide, quand les programmes puis l'aide est pas adéquate pour les personnes qui sont justement à plus haut fonctionnement ou qui ont moins de lourdes situations de handicap, tu sais, quand tu prends conscience que tu es différent, souvent quand tu vas avoir ton diagnostic tardif, puis que tu dis, hey, je pense que j'ai besoin d'aide, puis tu vas aller chercher de l'aide, puis que c'est ce type d'aide-là que tu reçois, c'est assez pour te dire, ben gars, je vais me débrouiller toute seule, ou tu sais, comme. Ou tu sais, est-ce que c'est vraiment. Tu sais, est-ce que c'est vraiment ce genre d'aide-là que j'ai besoin? Puis, tu sais, ça peut faire beaucoup de remises en question assez négatives à cet égard-là, tu sais.
Ouais, moi, à la base, je suis restée avec l'organisme d'employabilité parce que via Prédisponible Capable, en fait, j'avais droit à un casque anti-bruit.
OK.
Donc, c'était merveilleux. Fait que je suis restée notamment à cause de ça. Puis aussi parce que c'était un moyen de voir comment il fonctionnait. Puis ça m'aidait dans mon travail. Mais bref, au début, c'était pas exceptionnel.
Ils t'ont bribé avec un casque anti-bruit.
Puis pour revenir à ce que Malvina disait dans l'entrevue, elle se demandait qu'est-ce qui est la source de ça, en fait? Pourquoi est-ce que les organismes d'employabilité n'aident pas les personnes qui en ont le plus, mais en fait, qui sont la majorité, tu sais, ceux qui en ont moins besoin? Puis évidemment, on met des guillemets gros comme le monde, en fait, de moins besoin, parce qu'ils en ont autant besoin, mais bref.
And we can actually go back and say why, right? Why don't they have the experience with people who have less needs or different kinds of needs? Why don't they have the experience? And why don't they have the bandwidth? And this is where, you know, we have to trace back and say, what's the source of that? And oftentimes the answer to that is about money, about limited budgets, right? And about when you have a limited budget in a public system, you end up serving the people who come to you in the most despair, all right? And then there's no money left. And so, you know, how are we going to... So if we take an example of an employment agency, even an employment agency who's specialized, they get a certain amount of money every year, and I think it's to serve a certain number of clients, right? And they can't go over that number. It's not their fault. And that I'd like to talk about separately. That's actually a really, really important point, because that brings back these programs, right? Who are there have been a few federally funded programs that have been taken up in many provinces. Excellent programs, significant funding from the federal government. And there's an expectation by the funder that you deliver, quote, results, right? So if we're going to provide money to train people, then we want to know how many of them actually found jobs and were able to stay in their jobs for X number of months or years. And at the end of the day, there are many, many factors that contribute to that, not just the training program, right?
Ça revient au fait que le funding, le financement, ça revient aux politiques qui sont en place. Ça revient au fait que chacun se réfère à un certain gouvernement, par exemple, ou va se référer à un certain la personne qui finance. Là. Donc, finalement, ça veut dire qu'on est en silo, même si on devrait tous se parler. On va être en silo, et donc c'est un gros problème finalement ça.
So this goes, this all comes, in this case, a lot of it comes back to funding and conditions of funding. Sometimes it comes back to the policies that are in place. It can come to silos where you have all these agents or organizations that actually act independently, and they report into different ministries, right? So they act independently, but in fact they're very dependent on each other, and people who need these services are very dependent on all of them, you know. And one of the things I'd love to see is to get control back into the hands of the individuals who need support, you know, because right now individuals are and families are very dependent on what they're able to find. They have to be their own coach in a sense, you know, and that's why I love the coaching idea, right? Because it's so holistic, right? You're really focused on the whole individual. But in a lot of cases, individuals and families are having to be their own coaches, their own navigators, their own connectors. And they then have access only to what is available. And, you know, wouldn't it be wonderful, for example, and I'm throwing this out, you may disagree with me, but wouldn't it be wonderful if the government provided a certain amount of dollars to every individual, and they're able to then find the help that they want and that they need when they need it?
C'est l'idée, c'est que justement en ayant des budgets, puis que ça soit géré individuellement, mais c'est que ça revient à l'idée du coaching, que ça dépend de chaque individu puis de ses besoins. Fait que l'individu ou la famille peut aller chercher dans un filet qui est plus imbriqué de tous les différents acteurs, ce qui est bon puis ce qu'il a besoin pour lui, au lieu de rentrer justement dans un programme one size fits all.
Ses besoins vont varier dans le temps, tu sais, fait que...
Ben c'est ça, on grandit, on vieillit, on mature, on apprend.
Oui, c'est ça, ça va varier selon plein de facteurs. T'sais, ça se peut que tu aies plus besoin d'aide à ton emploi parce que ton boss vient de partir. Mm-hmm. Puis là, ben après, quand ça se stabilise, mais c'est autre chose.
C'est ça.
Mais ça, ce qu'on décrit en ce moment, c'est le modèle plus social versus... Et là, on a discuté à traduire, mais « welfare model ». Model, mon Dieu, mon anglais est horrible. Mais, mais bref, on n'arrivait pas à le traduire, mais c'est dans le fond cette idée-là que... En ce moment, on est dans un mode où les gens vont dans un modèle où les programmes sont basés vraiment sur un besoin et c'est beaucoup plus centré sur un one size fits all, mais alors qu'on aimerait que ce soit plus basé sur l'individu et ses particularités qui lui sont propres, plutôt que, tu sais, au lieu de demander que l'individu s'imbrique dans un programme, on mettrait le programme autour de l'individu et ce serait l'inverse, finalement.
C'est ça.
C'est un peu cette discussion-là qu'on a eue entre les deux modèles.
Yeah, where we sort of say, okay, you know, there are these people who are different and they have certain problems. And so we have a responsibility to help them if and when we can. And so we sort of put, it's almost like you're saying it's the person that has a problem and we're going to try and help them. As opposed to saying, it's society that has a problem. It's not the person, it's society. And when are we going to start questioning our own attitudes and beliefs and assumptions? Because that's when we're really going to enact change. And I think the work you three are doing is the kind of thing that can help with that. It really allows us to question our attitudes and our beliefs and things that we take for granted, right? We don't even twice about. So then if I can go back to another example in the paper, you know, you spoke about having trouble with lighting even before you knew you were autistic. And the employer is saying, well, this isn't a living room. This is not a living room, right? You know, that's an attempt to put people in a square peg, right? The standard square peg all the time. I don't know that any of us actually belong in those square pegs.
C'est ça, puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, en disant ça, le but, c'est pas de dire qu'en ce moment, les programmes, c'est pas bon, puis que c'est pas ça qui est souhaité, tu sais, mieux vaut quelque chose que rien pantoute, de un, puis de deux, tu sais, ce qu'ils font, ça aide beaucoup de gens, puis c'est exceptionnel le travail qu'ils font, puis ils travaillent tellement fort. Fait que le but, c'est vraiment d'expliquer que, tu sais, dans un idéal, une espèce d'utopie qui souhaiterait être atteinte, ça serait d'aller justement vers un modèle comme ça où le système est autour de l'individu et non l'individu qui rentre dans des cases du système, puis que s'il ne rentre pas dans cette case-là, bien, il fait juste tomber en bas du système qui n'a pas fité dedans, tu sais.
Oui, exact. Faut pas oublier que c'est quelque chose qu'on dit qui demanderait un changement social absolument phénoménal. Donc, en ce moment, les gens font du mieux qu'ils peuvent et ils le font très bien avec les contraintes dans lesquelles ils doivent composer, tu sais. Que c'est effectivement, tu fais bien de le mentionner, on n'est pas en train de dire que les programmes actuels sont pas bons, c'est juste le système au complet qu'on veut jeter à terre et qu'on veut recommencer.
Oui, voilà. C'est ça, puis tu sais, ce système-là, en fait, c'est que ça va être la représentation des personnes, puis ça va avec, tu sais, qu'est-ce qu'on disait un peu plus tôt, justement, aussi, le fait que, tu sais, les gens pensent que les programmes sont là pour aider les personnes autistes parce que toutes les personnes autistes sont lourdement handicapées puis qui ont toutes besoin de ces programmes-là, mais c'est pas le cas. Fait que c'est pour ça qu'en parlant puis en aidant à réduire ces silos-là, on va être capable d'aller chercher une meilleure compréhension de c'est quoi les situations de handicap puis c'est quoi qu'on veut dire par l'approche systémique là, dans tout ça.
But I think, you know, that it's an interesting point because, so why are employers doing that, right? Why are first question is, why are you doing that? And then the second point I would have is, if you're going to ask anyone if they have psychological issues, more than half the population is going to say yes right now. I mean, we're in a world where anxiety is rampant, right? Which is considered to be a mental illness. I think employers we need to understand that fewer and fewer people fit into what we used to consider a square box.
C'est ça. Puis tu sais, en bout de ligne, ça revient aussi à la compréhension de ce qui est normal. Puis dans la tête des gens, mais tu sais, il y a le monde normal, puis après ça, il y a les personnes qui sont pas normales ou qui sont différentes ou qui sont divergentes de la norme. Puis là, j'utilise normal, mais dans le sens de norme ici. Puis, veux pas, la diversité, dans, sous toutes ses formes, fait partie de la société. Puis, en entreprise, ben c'est qu'il y a des choses qui sont socialement acceptées. Tu sais, mettons quand on parle de la formation, tu sais, moi, dans ma philosophie, moi, si c'est normal d'avoir des formations sur l'intelligence émotionnelle, le leadership et blablabla pour que les personnes améliorent leurs compétences, ben si on se dit que la diversité et la neurodiversité fait partie de la société, ben pourquoi est-ce que ça serait pas pris en charge par les entreprises dans leur programme de formation? Parce que c'est juste... Ça fait partie de la vie.
Normal.
T'sais, c'est juste normal.
Ben, c'est ça, ça fait partie. Ben, pas de la norme, mais ça fait partie de la réalité, finalement. T'sais, c'est réel.
Fait que, si tu payes des coachs exécutifs pour développer toutes sortes de soft skills, ben, pourquoi est-ce que tu pourrais pas payer un coach pour une personne qui est neurodivergente pour développer ses skills selon sa réalité à elle puis selon ses besoins à elle?
Non, mais ça revient à... C'est pas autour de la personne qu'on doit se centrer, c'est vraiment la société, dans le fond. C'est pas l'individu qui doit, lui, faire l'effort, c'est la société. Ben, en fait, non, c'est pas juste la personne qui doit faire les efforts, c'est aussi la société.
C'est un
peu ce qu'on a toujours dit dans le podcast, que chacun doit faire son bout de chemin pour se rejoindre au milieu, mais c'est encore ça, finalement.
Exactement, c'est ça, c'est cet esprit de co-responsabilité, puis de... C'est ça, de se rejoindre au milieu, parce qu'en bout de ligne, c'est juste ça qui est gagnant, là, c'est de... Puis c'est pas une notion de compromis non plus, tu sais, c'est... Je pense que, tu sais, des fois, quand on parle de se rejoindre dans le milieu, il y a des personnes qui pensent qu'il faut, comme, abandonner des trucs pour se rejoindre dans le milieu, mais des fois, c'est juste d'avoir une meilleure communication puis de mieux se comprendre pour arriver, tu sais, au lieu de se dire, bon, ça va être 50-50, mais c'est les deux qui arrivent à 100% dans le milieu.
Mm-hmm. Ouais, des fois, c'est juste de faire les choses autrement, puis ça va fonctionner, tu sais. Et là... Malvina, on parlait de tout ça, puis finalement, elle a dit « Ouais, mais tu sais, il y a aussi des histoires de succès dans tout ça. »
Ben oui!
On parle de ce qui va mal, mais il y a aussi des choses qui vont bien.
Yeah, and you know, something that was going through my mind as you were speaking is that there are some pockets of success. You know, there's some wonderful stories, and we need to share those stories too, because I think that's also going to help make it more mainstream, right? To tell the stories of the employers who've dramatically shifted, and that way others can, you can spread this positive contagion, you know. And I think having this idea of a coach as well can contribute to that, because the more you're exposed to successes like that, the more you can share them wherever you go.
Faut le mentionner, puis on se disait que ben c'est justement ça que Prédisponible et Capable fait, parce que oui, on parle beaucoup de Prédisponible et Capable, mais ils partagent des histoires de succès qu'ils rencontrent, et puis ça fait un effet boule de neige, donc c'est super important aussi de parler de ces histoires-là.
Oui, c'est ça, puis tu sais, moi, je trouve ça formidable, tu sais, tout le... Puis là, tu sais, j'ai l'impression de me contredire quand je dis ça, mais tu sais, Prédisponible et Capable ont beaucoup de data qui est très encourageant. Fait que tu sais, oui, un peu plus tôt, on disait que le nerf de la guerre fait que les data sont peut-être pas représentatifs à 100% parce qu'il y a un certain tri qui doit être fait sur la capacité d'aider tout le monde versus ceux qu'on est juste capable d'aider. Mais reste que...
Oui, mais il faut savoir que Prédisponible et Capable fait énormément d'efforts pour préparer les employeurs et s'assurer que le contexte va être parfait. Mais effectivement, ils ont plein de data dans la mesure où ils collaborent avec l'Université de la Colombie-Britannique pour analyser ces données-là. Fait que c'est sûr que c'est biaisé dans la mesure où c'est leur donnée à eux, puis ils s'assurent que ça va bien fonctionner.
C'est ça. Mais reste que quand on met le terreau fertile pour... ça permet à ces personnes-là d'intégrer le milieu du travail, ben ça donne des statistiques qui sont assez incroyables et phénoménales. Là.
Oui. Et là, on revient au fait que la majorité des gens n'ont pas tellement de soutien.
But that majority of individuals are receiving nothing. They're receiving nothing because the system is so overwhelmed. And again, it's not to blame anyone. They're limited funds. But the system is overwhelmed with the people who it already serves, who really have significant ongoing needs that are multifaceted.
quelque chose qu'on mentionne dans l'article, c'est qu'il y a beaucoup de prisonniers aux États-Unis. Il y a eu une étude que plusieurs prisonniers sont autistes et ils ne le savaient
pas. C'est ça, c'est le double quand même, hein, de la proportion de personnes autistes. Si on se dit qu'environ 2% de la population est autiste, bien 4% de la population carcérale est autiste.
Oui, c'est ça, c'est quand même assez fascinant, mais dans le sens morbide de la chose. Là.
C'est troublant.
Et on se demandait un peu comment on pouvait en arriver là.
We don't know exactly. Is it, and police, you know, arguably in a lot of jurisdictions are not well enough equipped to consider that that could be a possibility, right? When you encounter an autistic individual in a situation, they may know nothing about it. But it also goes back to, you know, again, it could also be the idea of early diagnosis, that many adults today who are autistic have not received a diagnosis, right? And now there's a lot more a diagnostic assessment going on. But for a long time there wasn't. And in Quebec, as you probably know, it's really hard as an adult to go into the public system and have an assessment. There are not a lot of resources. There are not a lot of services available. And often people have to go to the private sector. And for a lot of people, that's just not accessible.
Puis on parle du fait que le diagnostic est difficile à obtenir.
Oui, puis on en a déjà parlé dans l'épisode, à quel point c'est ça, c'est long, ça coûte cher. Si tu veux avoir ça au privé, ça peut prendre des années. Au public, excusez, ça peut prendre des années. Puis après ça, au privé, tu sais, t'as bien beau avoir les meilleures assurances du monde. Tu sais, moi, j'ai des excellentes assurances, puis ça m'a quand même coûté, tu sais, 80 % du prix du diagnostic, là, tu sais.
Oui, c'est ça.
Puis tu sais, quand t'en as besoin de ton diagnostic, là, quand t'arrives tard dans la vie, puis ça aussi, on en a parlé, mais on en reparle parce que c'est important, tu sais. Quand t'arrives dans la trentaine, quarantaine, puis tout d'un coup, tu te dis, hey, je pense que j'ai besoin d'un diagnostic, c'est parce que ça va pas. Il y a quelque chose qui marche pas, puis t'en as besoin, là, tu sais, tu te réveilles pas un matin, puis dire tout va bien, là, 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 hey, je me demande si je serais pas autiste, tu sais, puis non, c'est parce que, tu sais, ça marche pas, puis t'en as besoin, fait que t'es pas capable d'attendre 3 ans pour avoir ton diagnostic, puis si ça va pas, il y a des bonnes chances que, tu sais, ça veut pas dire que tu vas être dans un emploi où tu vas avoir des assurances, que tu vas avoir la capacité de payer pour le diagnostic, puis y aller par toi-même, fait que ça crée des situations qui peuvent être très... Je vais oser le mot, mais qui peut être très dangereuse parce que ça affecte grandement la santé mentale, puis on sait que oui. ça peut avoir des effets dévastateurs là, sur les personnes. Fait que c'est pour ça que de se dire, ben, tu sais, les diagnostics tardifs, si on le prend dans un modèle un peu plus holistique puis de société, on devrait pas avoir besoin d'attendre aussi longtemps, puis on devrait être capable d'avoir une assez grande représentativité pour pas s'en rendre compte si tard dans la vie que il me semble que je suis différent parce que tu te reconnais pas dans... Là, ça revient avec notre émission sur la représentativité dans les médias, mais tu sais, tu te reconnais pas en nulle part dans les stéréotypes et les caricatures de l'autisme, de la dyslexie ou du TDAH, mais tu n'iras jamais chercher ton diagnostic parce que tu te reconnais pas là-dedans, tu sais.
Mais oui, puis aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que souvent, l'enveloppe pour aller faire le diagnostic, l'enveloppe d'argent au niveau des assurances pour aller faire le diagnostic, c'est souvent la même enveloppe pour aller consulter ton psy, pour avoir des séances de psychothérapie. Donc, c'est le fun, j'ai un diagnostic, mais après, j'ai plus d'argent pour aller voir mon psy puis traiter le fait que j'ai eu un diagnostic, donc c'est un peu absurde. Puis on n'oublie pas non plus que les autistes... À la seconde où tu as un diagnostic, ben, tu n'as plus accès à des assurances privées, donc c'est un peu absurde.
Effectivement. Puis là, après ça, c'est là que Malvina nous a parlé, puis moi, je ne l'avais pas vu passer, mais Justin Trudeau avait fait une annonce en automne.
Oui, c'était l'automne passé, ça. Puis on ne l'a pas vraiment vu passer, mais...
Did you know that there's a disability benefit that's been put on the table by, in the throne speech by Justin Trudeau last fall? In his throne speech, I'm losing track of time, is it last fall? I think it's last fall. He introduced the idea of a disability benefit for all individuals who have been diagnosed with some form of disability. And I think, you know, there are a lot of discussions about how that's actually going to happen, and they're committed to it. And there are now a large group of people around the country that are making sure they deliver on it. But if that happens, just to your point about costs and everything, And my earlier point about getting money into the people who need the services directly, this could be game changing, because it could mean, if it goes through as it should, it could mean an additional $2,000 a month.
Ce qu'on craignait, c'est qu'il fallait prouver hors de tout doute raisonnable qu'on en avait besoin. Moi, je disais que oui, c'est bien beau, tu sais, il y a des programmes de crédit d'impôt pour les personnes handicapées, mais j'ai même pas droit parce que je suis pas assez handicapée, tu sais. Donc, on revient toujours au fait que les services sont pour la minorité qui en a vraiment le plus besoin.
Yeah, no, you're absolutely right. And that's why there's a group also working to make sure that they are part of the discussions around what the criteria are to receive that benefit. Because you are absolutely right. You're absolutely right. And we want to make sure also that it doesn't sort of, you know, you don't want a provincial government to step in and say, oh, now that the federal government is providing this $2,000 or whatever it is a month, well, then we don't have to provide X, Y, and Z anymore, right? We can now pull back because we don't have a lot. So all these things are being discussed now around the country. And hopefully there'll be some good things coming out of that.
C'est comme le programme de solidarité sociale. Donc, l'aide sociale, mais avec un petit crunch de plus parce qu'on a des soucis à avoir un emploi. Ce programme-là, ben, l'aide sociale, c'est un peu pareil, je pense, mais c'est que dès que tu as $1 de revenu, ben, il t'enlève $1 de ton aide. Fait que dans le fond, ça me sert à quoi de travailler, tu sais.
Ben, c'est ça. Fait qu'en tout cas, on ne peut qu'espérer que ce programme-là ait des effets aide à l'avant, puis aide des effets positifs, puis que ça donne des bons résultats, tu sais.
Puis... Oui, on espère qu'il est assez avancé pour que le prochain gouvernement n'ait pas le choix de le mettre de l'avant. Là.
C'est ça. Fait que c'est justement par rapport à ces personnes-là qui s'impliquent, est-ce qu'on pourrait appeler ça du lobbying, je sais pas, mais tu sais, qui s'impliquent justement au niveau de ces politiques-là, ben ça rappelle justement en fait quand tu avais ramené le mouvement « Nothing about us without us », c'est de dire de ramener la voix des personnes neurodivergentes, des personnes autistes à la table, que ce soit pour des programmes comme ça, des initiatives politiques comme ça, ou pour toutes les études, en emploi, au niveau des programmes, au niveau de ramener cette voix-là. Ouais.
Non, effectivement. Puis la nuance que Malvina apportait, c'est qu'il faut des gens qui sont tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système et de la situation.
Yes, well, I think the it's clear, and you can tell me, you know, that if we're going to do anything for a group of people, then that group of people has to be leading and involved in that effort. I guess my nuance, just based on the experience I've had to date, and I'd love to hear what you think, is that it would be great to include others who maybe in this case aren't considered to be neurodiverse, although I would argue many of us are that just aren't diagnosed with it. But I would argue that it's also important to include others who want to help and who bring different things to the table. So in my experience, I've always found that we really can move mountains when we have a group of people who are directly the ones who stand to gain or lose, and also those who want to help and who have something to bring to the table. And it has to be in a certain way, right? Sorry, I was just going to say, because there's been a lot of discussion, just to be very frank with you, and I'm sure you know already, there's been a lot of discussion about colonial approaches, you know, to assistance, which I totally understand, and I'm humbled, you know, I've been humbled by some of these conversations. I just hope that it doesn't mean that others can't help if there is a role to play.
Mais oui, on parlait du fait que c'est tellement important qu'il y ait cette voix-là des personnes concernées. Puis on discutait dans le fond du fait que les personnes concernées souvent vont revendiquer d'être les seuls intervenants à la table parce qu'ils ont tellement été enterrés sous les paroles de, par exemple, des parents. Les parents prennent tellement de place. Mais
tu sais, puis je suis encore là, c'est parce que, tu sais, en tout cas, j'ai pas encore à faire ça ma fille, tu sais, j'ai pas de besoin de la représenter, mais tu sais, en tant que mère, c'est sûr que tu t'en prends de la place parce que tu veux te battre pour ton enfant, mais en même temps, c'est ça, tu sais, la perception d'un parent, j'imagine, qui n'est pas autiste, mais qui a un enfant autiste, c'est, ça reste que c'est la perception de ce que tu perçois de ton enfant, mais pas
ouais.
la réalité.
Mais hein. c'est ça, c'est, personnellement, je suis un peu contre le fait que les parents vont prendre tellement de place parce que c'est bien beau un parent, oui, il va comprendre son enfant, mais encore là, c'est pas lui qui vit l'autisme, tu sais, puis les personnes qui sont plus en, qui sont incapables de parler, par exemple, à un enfant parce qu'il est trop jeune, parce qu'il n'y a pas les mots pour le dire, ou les personnes plus handicapées, ben c'est pas beau, mais une personne autiste adulte qui est capable de s'exprimer va avoir beaucoup plus de, quant à moi, va avoir beaucoup plus de poids oui. que le parent, tu sais. En tout cas, c'est tout un débat, puis on en discutait un peu, puis ce qu'on disait, en fait, c'est que les personnes autistes ont tellement besoin d'être à la table que c'est parce qu'ils n'ont pas été écoutés à l'avant, fait puis là, c'est un équilibre qui est en train de se chercher entre la parole des parents, des intervenants, mais aussi celle des autistes, et que finalement, on va atteindre cet équilibre-là éventuellement.
Yeah, and at the end of the day, the other thing we found related to that is that if we really want to make change in a system, we actually need people from outside the system and from inside the system. And I learned that the hard way, you know, because I sort of came in, I remember to one of the services that we launched in diagnostics as this, you know, so-called social entrepreneur, right? So I had all these, like, why can't we change this? Let's move it. Here's the idea. This model's going to work. Look at the cost. You're going to save money. Let's go. And what I came to realize is that there are certain ways that things work in a big machine, you know, like the public sector. And even those within the public sector who really want change, and many of them do, there are certain ways that it has to happen, even if they don't seem logical. And so we sort of do need people from within the system to help us navigate it.
C'est ça, parce que, tu sais, en bout de ligne, puis ça, je pense que c'était dans l'article, tu sais, mais c'est cet esprit un peu colonial qui reste ancré dans nos mœurs, tu sais, de dire, tu sais, de... Puis là, par esprit colonial, je sais que ça a l'air intense, ce que je veux dire. mais tu sais, dans le sens où, justement, tu sais, c'est cet esprit de, tu sais, les personnes qui sont en supériorité numérique ou qui ont le plus de pouvoir d'influence, qui vont mener de l'avant les différentes recherches, les différentes études, en incluant pas nécessairement la voix de toutes les personnes qui devraient être impliquées, comme ce qu'on dit maintenant, tu sais, les personnes autistes, de vraiment les impliquer dans toutes les recherches, dans tous les écrits, dans tout ce qui se fait pour eux, ben ça fait que c'est ça, ils ont l'impression qu'ils ont besoin de crier. Puis là, ben tu sais, je dis eux parce que moi je ne suis pas autiste, donc je veux pas parler pour quelque chose que tu sais que je connais pas évidemment, mais tu sais de ce qui ressort de ton expérience, Hélène, puis de ce qui était écrit, puis de ce que je lis, c'est vraiment ça, c'est que c'est le temps dans le fond de laisser la place puis d'écouter. Puis de comprendre la réalité de ces personnes-là avant d'arriver avec des solutions en mode colonial de « nous sommes le groupe qui va vous aider, puis on va tous vous embarquer pour que vous deveniez comme nous autres », tu sais. Le but, c'est pas de changer les personnes, c'est d'aller se rejoindre, comme on disait un peu plus tôt, dans le milieu. Puis en changeant cette dynamique-là, ben on sort un peu de la joke que je faisais dans un autre épisode, tu sais, de la version du mansplaining pour la neurodiversité, du neurosplaining, de dire, tu sais, toutes les personnes neurotypiques qui sont sur la table prennent des décisions, puis vont expliquer aux personnes divergentes comment ils devraient être encadrés, comment ils devraient être accompagnés, comment est-ce qu'ils devraient, tu sais, utiliser des services quand eux autres n'ont jamais eu leur mot à dire.
Point well taken. Point well taken. And you're right, it's a delicate balance. And it's not easy to find it. And I was just going to say that, you know, one of the other things we've seen is that that's why we have to be so careful with, you know, if we, let's say, decide that there's a particular initiative we want to get involved in together as a group, it really merits a lot of time in thinking about who should be the members of that group. Sometimes, you know, we don't take that much time to do that. We sort of say, well, you know, I know this person, I know that person, I know they're very well known, I know this person here, that person, let's just get together. But, you know, the people around the table are key. It's a really strategic decision to decide who you're going to work with to make change. And it's not only about what expertise they bring or what voice they bring, but also about how they're going to then help move things forward in their own particular networks. And sometimes it's people who don't, and we say this in the paper too, it's not always people who have a lot of official power that can actually make a lot of change. It's often people who are the unusual suspects, right? Who they're very quiet, but you know what? Behind the scenes...
Tu faisais remarquer plutôt que les personnes dyslexiques, les TDAH vont souvent être considérées comme des adultes.
Oui.
En fait, il y a des documents, il y a des programmes, il y a tout un discours qui est adressé à ces gens-là. Alors que souvent, les autistes, c'est comme si on devenait non-autiste à 18 ans. Tu sais, que, tu sais qu'on grandissait pas et qu'on devenait pas autonome et fonctionnel et qu'on n'avait pas d'emploi et que, bref, qu'on était toujours sous la responsabilité de nos parents. C'est le cas parfois, bien sûr. C'est sûr qu'il y a tout un pan des personnes autistes qui ont toujours besoin d'aide et que c'est très légitime, mais ce n'est pas que ça non plus. Donc, comment est-ce que, dans le fond, rien, pour l'instant, ne s'adresse à ces personnes adultes-là?
C'est ça, parce que ça venait d'une discussion qu'on avait eue ensemble, hein, parce que, tu sais, je disais à quel point, tu sais, moi, tu sais, par rapport à mes évaluations, mes diagnostics, j'ai plein de ressources, puis je peux me chercher plein d'aide, mais toi, quand tu regardais des ressources puis de l'aide en tant qu'adulte autiste, c'était comme si tout était écrit pour tes parents ou tes intervenants, mais il n'y avait rien qui était écrit comme pour toi.
Oui, exact, mais c'est le cas. C'est vraiment... puis on n'est pas considéré, c'est vraiment... J'ai déjà été à un espèce de colloque là, pour les intervenants en autisme, puis il y avait des autistes qui intervenaient à ce colloque-là, mais c'était un peu comme un freak show, finalement.
OK.
On n'était pas là pour témoigner vraiment, on n'avait pas d'impact sur le contenu des conversations, c'était vraiment absurde. Je trouve que c'est souvent comme ça, puis ça m'avait vraiment fâché.
Ce qui est complètement différent de Horizon 21, tu sais, moi, c'était vraiment pas l'impression que j'avais eue, tu sais, j'avais beaucoup apprécié ce congrès-là, puis, tu sais, le panel avec les personnes autistes, c'était vraiment riche, là.
Yeah. So it's a really important point that you raised, Melissa, and it could be a function of what I said earlier and what we said earlier, that the system right now is geared toward people who are very dependent on others. And that, by the way, is the minority of people, as you know, of autistic people, as an example. So it could be a function of that. It's a really important point. And I think there is a shift underway. I do think there's, from what I've seen and from conversations I've had, they're starting to realize it.
Oui, effectivement. Puis sinon, on parlait de cette espèce de ton, enfin, comment on tombe en bas de la falaise quand on sort de l'école et que là, on arrive sur le marché du travail. C'est quelque chose qu'on mentionne dans l'article.
Le fameux « falling up the cliff », là.
Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose dont on parle dans l'article. Puis ça réfère un peu à ce que je viens de dire, dans le fond, qu'on ne devient pas adulte. Mais il y a plein de services quand on est à l'école, puis après ça, bouh, c'est le vide sidéral.
Oui, soit c'est parce qu'une fois que tu as du temps, justement, ton autisme a disparu, tu grandis, puis pouf, tu deviens neurotypique, là, tu sais, c'est...
Hey, c'est magique.
Ou ben, tu restes chez tes parents, puis, tu sais, mais c'est ça, quand tu as ton diagnostic tardif, que tu as eu ou que tu n'as pas eu d'aide, là, la jungle du milieu du travail, c'est complètement débile, là, tu sais. So when it comes to that with ready, willing, and able, did I say it properly? I know it in French, but it was part of being able to help with this, obviously. But what else did you find with your experience and your researches that could be easily done for employers or for autistic people that just seek to know what to ask for when they fall off this cliff, you know?
Oh boy. I wish it were that simple. I really wish I had an answer for you on that. Because part of the issue we face, and I alluded to it earlier, is the silo also within sectors. So you have the schooling sector that operates completely independently from the employment sector, when what the person really needs is a continuity through school and into employment. I certainly think that what I would love to see are partnerships among employers and universities, for example, on employers and high schools, right? Because then one could argue that employers can help students even while they're still in school, whether it be starting to practice or work or be exposed to work. And employers can also learn, right? They can actively learn about how to create conditions for success for these individuals. So that's the first thing that comes to mind about how we can potentially hope to make a difference. But again, and we say this in the paper, even if we do that, we have to make sure that the policies that are in place are changed. Because if we just continually institute pilot projects that begin and end, and then new people come and go, then it doesn't become sustainable. So it's got to be an effort between employers, and even if we start with just a few employers, and even involving the government so that they can have policies that support the employers in this, a couple of universities, and who really start to change on a permanent basis their structures and policies to support the transition from school to work. Solène, I feel like you wanted to say something.
Puis je racontais que j'avais un participant quand je travaillais chez Prêt disponible et capable, que lui, il était donc autiste. Je pense qu'il y avait un doctorat, ce gars-là. Donc, quand même des études assez poussées. Et là, il n'arrivait pas à trouver un emploi. Puis, c'était un peu mélangeant parce que l'organisme d'employabilité ne pouvait pas l'aider à trouver un emploi parce qu'il ne connaissait à rien à son domaine d'études. Puis l'université, eux, pouvaient pas l'aider pour l'aspect autistique de la chose parce que ben il y avait de la difficulté à faire des entrevues, il y avait de la difficulté à se présenter, il y avait des problèmes au niveau des relations personnelles dans le milieu du travail. Mm-hmm. Et ce que j'avais essayé de faire sans succès, c'était de faire travailler ensemble les deux, puis que c'était vraiment difficile finalement.
C'est ça, c'est pas encore ancré dans les façons de faire, puis au niveau des employeurs, justement, avoir un lien avec des programmes d'employabilité, les employeurs, les universités, puis que tout le monde se parle ensemble, c'est vraiment ça qui manquerait aussi pour encadrer ce falling off the cliff-là, justement.
Oui, c'est encore drôle, parce que, comme je disais, il y a des programmes. Oui. Malvina parlait de Worktopia, avec qui on collaborait beaucoup.
But, you know, I think that this, no, it's very clear, and it makes me think of another example on a positive note. I think of one university in particular, I won't name it, but we had an employee, you know, there was another employment program we were working on, excellent program called Worktopia, to help ready individuals in the workplace. And there was somebody who was, you know, in charge of that program for a couple of years and really learned a lot. All right, about this whole topic and about autistic individuals. And she ended up going to work in the department at a university that provides support for students with particular needs. So she had the training in the background, and I can guarantee you she wouldn't have let that happen, right? Because she had lived through 2 or 3 years of learning and knowing what to do. And if we could only have more people like that, over time it will happen, right? More and more people who are trained, properly trained and sensitized, then hopefully you won't get the responses that you got at that time, which were clearly, I mean, heartbreaking, really, and unacceptable. And on the employment agency side, I thought of something else when you were speaking, Solène. So we have these specialized employment agencies, and they're wonderful. And they do have training, but they have limited resources. Wouldn't it be great if they could educate or have programs for all employment agencies across the province so that all of them are able to help autistic individuals or neurodiverse individuals? One can't expect that we'll have enough specialized agencies to help everyone. But if they could at least be there and act as the trainers and supporters of all employment agencies, then that would be a huge step in and of itself.
Le problème, bien sûr, c'est que les programmes vont et viennent et que ça dépend toujours du financement qu'ils vont recevoir. Prêt disponible capable, j'ai arrêté de travailler pour eux autres parce qu'il n'y avait plus de financement, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est toujours un peu ça. Et puis toute l'expertise que moi, j'avais eue, pour reprendre mon exemple, ben, elle s'est perdue dans le vide sidéral parce que j'étais partie, puis il n'y a personne qui a fait le lien ensuite avec ce que j'avais fait. Puis c'est un peu le problème, c'est que les programmes vont dépendre du financement qui est souvent lié à la politique. La politique, on sait, c'est 4 ans. Après 4 ans, ben, ça s'en va, puis ça change. Puis il n'y a pas de passage de flambeau, il n'y a pas de transmission des connaissances. Et c'est un peu le problème.
C'est ça, parce que t'as la notion aussi des silos. Oui, il y a des organismes, c'est que par exemple, je pense à Prédisponible Capable qui fait le pont entre tout plein d'organismes en employabilité. Puis eux autres, ils font le pont entre les entreprises puis ces organismes-là, mais il y en a pas beaucoup justement dans ce filet-là d'interconnexion des différents programmes puis des différents acteurs de la neurodiversité. Puis là, à chaque fois justement qu'il y a un programme qui meurt, ben il amène avec lui tout ce qu'il avait ramassé comme intelligence. Puis ça se transfère pas aux autres. Fait que le fait de dire que, tu sais, en allant justement vers un modèle plus systémique, ben on perd cette problématique-là des programmes qui naissent puis qui meurent puis qui amènent avec eux tout ce qu'ils ont récolté, là.
Oui, puis c'est la même chose pour les individus, tu sais. Les individus vont et viennent, ils changent d'emploi et so on. Puis ce qu'on disait finalement, c'est que pour rendre les changements plus pérennes, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un changement de société. Encore une fois, on redit les mêmes choses, mais que, bref, ce soit un changement de société, que ce soit les attitudes, les croyances, les instincts, les réflexes qui soient changés pour que ça soit quelque chose de, tu sais, un environnement, un contexte qui soit changé et non pas juste un programme qui travaille en silo, encore une fois.
C'est ça, puis tu sais, au fur et à mesure que, tu sais, on le voit, là, la conscience collective, elle se rehausse de génération en génération, puis en tout cas, on a d'autres émissions de podcasts qui s'en viennent sur le sujet, tu sais, au niveau de tout ce qu'on a comme bagage qui fait qu'on est capable de comprendre le monde dans lequel on vit, puis de l'interpréter de mieux en mieux, ben ça fait qu'on est capable de se fier au fait que on va pouvoir moins avoir besoin du gouvernement, puis on va être capable plus en tant que société d'accepter ces différences-là, puis d'aller de l'avant comme ça. En bout de ligne, c'est ça, c'est juste d'être inclusif. Puis je pense que c'est ce qu'on suit en dire avec le podcast, de dire que l'inclusivité, c'est pas complexe, puis c'est pas sorcier, puis je pense que c'est le fait qu'on travaille en programme comme ça qui fait que ça donne cette impression-là que ça prend un programme pour aider ces personnes-là, alors que ça aide une minorité, mais que la majorité, c'est quand même les besoins puis les mesures adaptatives sont pas complexes. Tu vas-tu vraiment appeler le gouvernement pour lui demander un budget pour payer une lampe de bureau? Tu sais, genre, non, là. Tu sais, fait que c'est de changer cette vision-là collective, les stéréotypes, les briser, puis de comprendre que, tu sais, la neurodiversité, at large, ça a une valeur ajoutée, mais qu'il y a différents besoins qui viennent avec ça, puis que c'est pas de le voir comme un modèle d'aide sociale, comme ça l'est présentement.
Mm-hmm. Ouais. Et on concluait en disant que, paradoxalement, c'est les individus qui vont changer les choses, que la différence, c'est que les individus doivent travailler ensemble.
It is, and I guess the only other thing I'd say is that, see, now I'm not shutting up. When we find people who are so impassioned with making a difference in this area in terms of neurodiversity, we as a society have a responsibility to do everything we can to support them in their work. Instead, what often happens is that these individuals face one barrier after another, trying to do what they want to do. And I just think we have a responsibility. If we find someone, and there are some amazing people, you know, I've met you guys, I've met some people who are just so determined to make a difference. You know, there's a medical dental service that we launched with a physician and a dentist who, believe me, don't need to be doing this kind of work, right? They could be working anywhere. But they have chosen to do this work. And those are the people that we have to do everything we can to support, because they can change things in a big, big way for us.
C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, en tout cas, ça nous a fait un petit baume, là, parce que Malvina a dit qu'elle appréciait beaucoup le travail qu'on faisait avec le podcast, que c'était vraiment en ligne justement avec cette philosophie-là d'avoir un impact systémique, t'sais, d'ouvrir la discussion, de rehausser justement cette conscience-là collective qu'on a.
Oui, Donc, c'était vraiment une belle rencontre. Je suis tellement contente d'avoir partagé ça avec elle, avec toi.
Oui.
C'est un article qui était tellement passionnant à écrire parce que ça parle de plein d'idées que tu sais, tu le sais, tu as une idée de ça instinctivement, mais après ça, de le mettre en mots et en images, c'est vraiment, ça change tout finalement.
Oui, effectivement. Puis non, c'était un superbe article. Puis encore une fois, je recommande à tout le monde de le lire. Puis tu sais, moi, quand je l'ai lu, tu sais, j'avais déjà connu une bonne partie de ton histoire, Solène, mais c'est ça, c'est de mettre une voix qui est différente des stéréotypes qu'on a sur un écrit, puis dans, tu sais, de lancer ça de façon global, là, comme qu'on disait, tu sais, c'est quand même, ça a été publié aux ouais. États-Unis, fait que c'est ça, petit à petit, brique par brique, on va être capable d'aider à bâtir, c'est ça, un monde plus inclusif.
Oh là là! Mais j'ai un secret pour nos auditeurs, parce que c'est vraiment pas évident à trouver, mais quand tu lis l'article, il y a une section d'ajout, finalement, de d'autres textes. Puis il y a tout un texte où Malvina résume nos multiples conversations, puis raconte mon histoire, donc il y a encore plus de données sur moi.
C'est vrai. Oh my God! Ouais, mais dans le fond, c'est ça, tu viens de donner c'est comme le Easter egg, là, mais c'est ça, parce que moi, je l'avais pas vu, oui. Fait que c'est bon que tu le mentionnes, mais oui, c'est comme un peu une tranche de biographie de Solène, fait que...
Ah oui, ça a été dur.
Ouais.
Hein. Mais je l'ai faite, je suis sortie de ma zone. Fait que voilà, ça résume l'entrevue qu'on a faite avec Malvina. On est super contente, je me répète, mais on a été super contente de vous partager ça. Merci de nous avoir écoutés.
Oui, puis on va vous laisser encore une fois tous les liens. Puis si vous voulez suivre Malvina, le meilleur endroit pour le faire, c'est sur LinkedIn. Puis comme toujours, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter, à nous poser vos questions, à nous donner vos commentaires. Nous, on est là pour vous. S'il y a personne qui écoute, on parle dans le vide. Fait que n'hésitez pas à nous écrire, puis on se réécoute dans un prochain épisode. Merci tout le monde.
Merci, bye-bye.
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.